la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Bonjour. Cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, le premier mardi de chaque mois à 18h30. Elle est rediffusée le samedi suivant. Elle précède une conférence de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'auditorium de Villefranche et traite du sujet à l'élargissant. Ce mois-ci, la conférence du 11 janvier 2025 a pour titre « Le Beaujolais et le curé d'Ars, amitié, pèlerin et miraculé ». Elle sera faite par Jean-Pierre Chantin, membre titulaire de notre académie. Et aujourd'hui, nous en profiterons pour faire plus précisément un point plus global sur notre question, les pèlerinages en Beaujolais, avec Philippe Branche, membre de l'académie lui aussi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, un petit rappel. Qu'est-ce qu'un pèlerinage ?
Un pèlerinage, c'est assez simple. Enfin, disons, c'est un voyage vers un lieu de dévotion, enfin, à l'origine. Après, maintenant, c'est vrai que le mot pèlerinage a un peu dévié. On va en pèlerinage vers des lieux qu'on a connus, où on a été heureux, etc. On dit on va en pèlerinage. Mais enfin, au départ, oui, c'est plutôt vers un lieu de dévotion.
On dit pèlerinage, on pense tout de suite à des grands pèlerinages, Saint-Jacques-de-Compostelle,
Jérusalem. Bien, il y a eu des modes aussi. J'avais un peu étudié sur le Beaujolais. Au 19e, on allait beaucoup à Paray-le-Monial, par exemple. Après, il y a eu la mode de Lourdes, il y a les apparitions de Lourdes, etc. La Salette. C'était un petit peu de ces pèlerinages au 19e, alors qu'étaient plus ou moins orientés, on ne sait pas. C'était un petit peu, il fallait reconquérir un peu les campagnes. Qui avaient eu un peu tendance à un petit peu oublier leur croyance en Dieu après la Révolution. Donc il fallait, c'est pour ça qu'il y a toutes ces apparitions, etc. Enfin, je ne mets pas en cause les apparitions, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal à cette époque-là. Quoi.
D'ailleurs, on parle des grands pèlerinages, mais il y en a des petits aussi. Ça, les gens l'oublient.
C'est ce que je connais le mieux, quoi. C'est ce que j'ai le plus étudié, parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce qu'il y a derrière, dessous le pèlerinage. C'est-à-dire que on enlève le vernis chrétien et on se rend compte que souvent, y avait autre chose. Et en fait, la chrétienté, j'ai essayé de recouvrir un petit peu ces anciennes pratiques. Et donc, c'est les petits pèlerinages de village. Et je ne vais pas dire qu'il y en a dans tous les villages, mais pas loin, quoi. On y va pour les bêtes, on y va pour la santé, surtout. J'ai le témoignage d'un curé, le curé de Quincy en Beaujolais, l'abbé Borias, vers 1880, qui se plaint, qui dit, il ne vient jamais à la messe, mais il ne raterait jamais un pèlerinage pour la santé des bêtes, pour tout un tas de trucs, quoi. Et ils ne viennent jamais à la messe, quoi. Donc, voilà.
Ouais, et puis les saints ont leur particularité.
Voilà.
Saint-Clair, c'est pour les yeux.
Voilà.
Donc Philippe, y a-t-il des... Pardon. Et les routes de le pèlerinage comme Compostelle ? Est-ce qu'il existe des routes ? Parce qu'on a eu une conférence à l'Académie sur lesquelles un historien célèbre...
Philippe Martin.
Philippe Martin, oui, nous a dit que les routes n'existaient pas.
Mais en Beaujolais, en tout cas.
En Beaujolais.
J'aurais un peu tendance à penser ça aussi. Parce que Saint-Jacques, il y a Saint-Jacques-des-Arrêts, par exemple, dans le Haut-Beaujolais. Alors c'est vrai que le mot des arrêts, on se dit, c'est une étape de Saint-Jacques, quoi. Mais j'ai jamais entendu parler de pèlerins. Il y a une petite tradition du côté de Saint-Igny-de-Vert. On dit que la chapelle de Vert aurait été construite pour les pèlerins qui partaient sur Compostelle. Mais ça reste une tradition, quoi. Alors après, c'est vrai qu'il y a des routes quand même, qui passent plutôt par Lyon, je dirais. Et puis c'est vrai que j'avais essayé de trouver un petit peu au niveau de la toponymie. Ce qui pouvait se rattacher à Saint-Jacques, Saint-Jacques-des-Arrêts, comme je viens de dire. Il y a une croix de Saint-Jacques à Aigueperse. Alors Aigueperse, c'est vrai que c'est un carrefour routier qui viendrait de Cluny, etc. Et puis du côté de... c'est Saint-Genis-Laval. Saint-Genis-Laval, il y a un endroit, une grosse pierre qui s'appelait la pierre de Saint-Jacques. C'est tout ce que j'ai trouvé sur Saint-Jacques. Donc ça peut encore se relier, quoi. Lyon, Saint-Genis-Laval, après on part sur le puits, etc. Et puis là, du côté d'Aigueperse, c'est vrai que ça peut être la route aussi qui vient de Cluny, quoi, parce qu'il y avait quand même des routes qui passaient par Cluny, et après qui partaient sur l'Auvergne, etc. Quoi. Mais c'est vrai que vraiment des grands, enfin des grandes routes de pèlerinage, simplement la vallée de la Saône, quoi. Parce que quand on partait sur Jérusalem, on descendait la Saône, le Rhône, et jusqu'à la mer. Quoi. Mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment de... Et c'est vrai que je rejoindrai un petit peu l'avis de cette personne.
Oui, Philippe Martin, il disait même que 80% des gens qui arrivaient à Saint-Jacques, ils arrivaient par la mer. les vrais. Mais il y a quand même des chemins touristiques avec des
oui, ben,
sur le GR7 tout en haut du Beaujolais.
Oui, il y a des choses, oui, oui. Ouais. Et puis il y a ce qu'on appelait la route du sel, des choses comme ça. Mais fin, c'est très contemporain, ce genre de choses. Enfin, c'est mon avis en tout cas.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que j'ai jamais étudié vraiment ça, le Saint-Jacques. Depuis quand il y a des guides qui sont assez anciens quand même sur la route de Saint-Jacques, mais est-ce que c'est les routes pour aller à Saint-Jacques, quoi, simplement?
Oui, non, lui disait que ça avait été vraiment inventé sous Franco.
Ah, ouais.
Et que c'était à visée touristique. Ceci dit, est-ce qu'il y a des lieux particuliers de pèlerinage en Beaujolais cette fois-ci?
Actuel?
Non, de... Enfin, qui ont duré pendant longtemps.
Alors, oui, il y a Sarigot, quoi.
Oui.
C'est vraiment, ouais, un des plus connus.
Ouais,
on va le mettre de côté, alors
ouais,
on en parlera après. Oui, alors après, moi, j'ai plus étudié les petits pèlerinages
de
village, quoi,
oui,
en fait.
Oui.
Et c'est vrai qu'on allait, par exemple, à Brouilly. Alors, Brouilly aussi, c'est... Alors, je parlais des apparitions tout à l'heure au 19e siècle. Il y a aussi toutes ces petites chapelles qui ont été construites à l'époque de l'attaque de la Pyrale sur la vigne. Mmh. Et il y a un très bon article qui était paru dans l'almanach du Beaujolais, je crois, dans les années 50. C'était Paul Mello qui avait fait ça. Et il disait quand la Vierge hésitait entre Beaujeu et Brouilly. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'était posé la question parce qu'on ne savait plus quoi faire. Quoi. Et donc, quand c'est comme ça, on se retourne un petit peu sur les fondamentaux, quoi, donc la Vierge. Et donc, ils voulaient reconstruire en fait, la collégiale de Beaujeu qui était à côté du château. Sur la hauteur. Et puis après, bon, il y avait un curé qui était assez influent, je ne me rappelle plus son nom, et en fait, qui a poussé pour construire cette chapelle à Brouilly. Notre-Dame des Raisins, elle porte bien son nom, quoi. Mmh. Mais, comme par hasard, juste à côté de la chapelle, il y avait une source, la fontaine de Nem, où on y allait pour la surdité. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On ne met pas des chapelles n'importe où, quoi. Même si ça, c'était vraiment pour combattre la pyrale et puis sauver la vigne. Il y a souvent des hauteurs. Enfin, on met ça sur les hauteurs. Est-ce que c'est un hasard? C'est toujours pareil. Montblat, la chapelle Saint-Bonnet. Donc Saint-Bonnet, comme tu disais tout à l'heure, Saint-Clair pour voir clair, Saint-Bonnet c'est pour la tête, donc pour les maux de tête, et puis comme par hasard, quelques centaines de mètres en dessous de la chapelle, il y a la fontaine Saint-Bonnet. Donc on allait aussi boire à la fontaine, etc. Quoi. Donc c'est des lieux, bon, enfin, c'est ma théorie, mais je suis peut-être pas le seul.
Mais ce ne sont pas des lieux aussi anciens, de pèlerinage aussi anciens que ça. C'est le 19e siècle essentiellement. Est-ce que c'est pas dû au fait d'essayer de recristianiser la France, et notamment il y a toutes ces croix de mission qu'on appelle ces croix de mission,
oui,
qui étaient des prêches dans les paroisses, ou je ne sais pas, dans certains
tout
lieux.
Tout à fait, ouais, ouais. Au 19e, ça relançait tout ça, quoi. Mais les pèlerinages existaient depuis très très longtemps, enfin depuis la nuit des temps, quoi. On parlera tout à l'heure de la fontaine Sarigot, mais on trouve des témoignages de ce qu'on appelait les viages. On parlait local, on parlait même de roméage. Alors roméage, il y en a certaines théories en fait, qui disent que ça vient de la Notre-Dame de Romay à Paray-le-Monial. Donc c'est très local, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait en citer presque toutes les églises avaient une chapelle. Que ce soit, alors il y avait Saint Pancras, qu'on appelait Saint Crampas, parce que les crampes, quoi, forcément, il guérissait les crampes. Enfin, on pourrait en citer des tonnes. Moi, ce qui m'a toujours étonné dans le Beaujolais, c'est qu'en fait, les grandes églises qui ont été créées par les sires de Beaujeu, que ce soit la collégiale de Beaujeu, Notre-Dame, Belleville, Notre-Dame, Villefranche, Notre-Dame, il n'y a pas de pèlerinage. Et ça m'a toujours un peu intrigué, quoi. Parce que souvent, les grandes églises comme ça, il y a toujours un grand pèlerinage, quoi. Et donc, c'est plutôt dans les petites chapelles, quoi, les petites chapelles rurales et les chapelles un petit peu, comment dire, sur les côtés, dans les églises, quoi. Et certains curés, même, ont essayé un petit peu de... Alors, d'un côté, ça attirait des gens, mais des fois, il y avait des pratiques qui étaient un peu plus que païennes, quoi.
Alors, dans les grandes églises Notre-Dame, en fait, il n'y avait pas de reliques. Ou alors, qui pouvait attirer des pèlerins, éventuellement ?
Oui, il y a aussi le système des reliques, ça a été aussi un moyen de christianiser tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on avait la relique, on a vu ça avec Notre-Dame la semaine dernière, quoi. On a remis la couronne du Christ, etc. Notre-Dame de Paris. Donc là, ça attire du monde, et c'est vrai que ça a pas une origine païenne, enfin, je veux dire, plus ancienne que la chrétienté, quoi.
Alors que là, les trois églises, il n'y avait pas, enfin, il y avait peut-être des reliques, je ne sais pas.
Oui,
mais aucune qui avait suffisamment de poids ou de force pour attirer des gens sur un pèlerinage.
Oui, puis il y a 400 exemples dans le Beaujolais. Il y a Saint-Pierre, par exemple, à Charentais. Il y avait la chapelle de Saint-Jean-de-Sagné à Marchand, où les gens venaient gratter une pierre, quoi, avec leur couteau. Ça, les curés, ils ne pouvaient pas l'empêcher. Parce que généralement, quand on faisait disparaître la pierre, les pèlerins venaient gratter la pierre de l'autel. Donc ça les énerve encore plus. Et on récoltait la poudre, on la mélangeait avec de l'eau, etc. Enfin, c'est tout un tas de pratiques, ce qu'on appelle le christianisme populaire, quoi. Voilà.
Bah justement, le Mont-Saint-Rigaud, c'est quand même
le lieu, oui.
Le sommet de la région, mais...
Y avait un prieuré qui est très ancien, quoi. Je crois que c'est à partir du début, Cluny n'est même pas encore créé, quoi. C'est vraiment le début du Xe siècle, où on a les premières traces. Et il y a un texte, en fait, une donation, c'était en fait des laïcs à l'époque qui tenaient ces lieux. Et c'est une donation d'un laïc à l'abbaye de Cluny qui va se former. Et on dit que déjà, par contre, ils donnent la chapelle, mais ils se gardent le fruit des donations des pèlerins. C'est qu'après qu'il va donner le tout, quoi. Donc on voit déjà, il y a des pèlerins qui viennent à... Alors, peut-être pas à La Fontaine, parce que La Fontaine, on n'a pas vraiment de traces avant le 18e siècle, mais enfin, je pense que la source devait exister déjà. La chapelle qui est au sommet, le prieuré, etc. Il y avait un gros pèlerinage qui a duré jusqu'au fin 19e siècle, à peu près.
Oui, mais qui c'est ce Saint-Rigaud ?
On ne sait pas bien, en fait. Saint-Rigaud. Il y avait une abbaye dans Saône-et-Loire, je crois que c'est en Saône-et-Loire, oui. C'est à Ligny, en Brionnais. L'abbaye de Saint-Rigaud. Il y a eu des bouquins de faits là-dessus. On sait même pas bien quand il fallait le fêter, quoi. Donc, et puis j'ai fait des recherches. Alors il y a la légende, quoi, forcément. Et on dit que c'était un jeune serviteur, en fait, qui était employé par les moines de Saint-Rigaud et qui est devenu le plus zélé d'entre eux, quoi. Et il aurait été enterré sous la fontaine, au pied de la fontaine. Et c'est ce qui donnerait, en fait, le fait qu'elle guérisse, enfin, qu'elle guérisse et qu'à la fois qu'elle rend les femmes fécondes, parce que c'était le principal but du pèlerinage. Et on dit que c'est parce que l'eau traverse le corps de Saint-Rigaud qu'elle a des vertus.
Calade.
Ma radio.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Nous sommes toujours dans la chronique beaujolaise de l'Académie et nous recevons Philippe Branche pour parler des pèlerinages en Beaujolais. Oui, alors ce Saint-Rigaud qui est quand même le lieu populaire de pèlerinage, il y a encore aujourd'hui des petites croix près de la source.
Oui. Alors c'est vrai qu'autrefois les gens, une fois qu'ils avaient bu à l'eau de la source, faisaient une petite croix en trouvant un bout de bois, etc. Il y a même des croix, moi j'ai vu, alors c'est vrai que ça avait été vandalisé il y a quelques années, mais j'avais vu des croix aussi, des gens qui achetaient des croix un petit peu en fonte, etc. Donc il y avait toutes sortes, et c'est vrai que c'était assez impressionnant, quoi, parce que ça, il y en a des centaines, quoi. Et oui, c'est le principe, mais on trouve ça ailleurs, hein, dans le Clunisois, la fontaine de Saint-Lizier, pareil, il y a des petites croix. À Saint-Ilyde-Vert aussi, il y a une source dans les bois où les gens venaient mettre des petites croix. Quoi. C'est un peu le...
Ouais. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des croix, ils ne savent pas pourquoi. C'est
parce oui,
qu'il y en
voilà.
a, donc ils en mettent bah, des petits des randonneurs.
On va à Sarrigo faire une petite balade du dimanche. Quoi. On voit des croix, on en met une. Quoi. Voilà. Et puis, c'est vrai, comme, c'est comme le pèlerinage. Quoi. On boit la source, comme on dit, ça ne fait pas de mal, hein. Même si ça ne fait pas de bien.
J'y ai vu, je ne suis pas tombé. Hein,
non, ça. Voilà. Bah, oui, moi non plus. Donc, ça ne marche pas tous les coups. Hein.
Mais c'est aussi peut-être aussi le culte des sources, qui est un culte celtique qu'on a trouvé un peu partout.
Voilà.
Aussi, ou voilà. Pas que dans le monde celtique.
Non, mais... puis enfin, je parlais des pierres qu'on gratte, qu'on grattait ouais. dans certaines chapelles. Il y a aussi les trois principaux, je dirais... comment on appelle ça, support en fait de dévotion celtique, enfin, l'arbre, la source et la pierre, quoi. Et on les retrouve voilà, dans toutes. À Bourg-en-Bresse, il y avait Notre-Dame de l'arbre du chêne. On a construit une église dessus, quoi, parce qu'on a trouvé soi-disant une statue de la Vierge dans le creux d'un arbre. Enfin, c'est le grand classique, quoi.
Donc il semble bien qu'il y ait des petits pèlerinages qui sont liés à des légendes. À...
Oui, voilà, hein. Bah, comme souvent, quoi. C'est-à-dire que voilà, je viens de parler de Notre-Dame de Bourg, Villefranche, c'est la même chose. La légende, comme quoi un berger, à l'époque où il y avait les marais, donc dans le creux du Morgon, et voilà, ces bœufs, enfin ces animaux s'agenouillent à un endroit, et donc le berger va voir et il trouve une statue de la Vierge, voilà. Et puis donc il la ramène, il la prend, il la ramène à la chapelle, enfin la l'église de la Madeleine qui était sur le promenoir à l'époque, c'était la première église de Villefranche. Et puis trois jours de suite, dans la nuit, elle retourne toute seule à l'endroit où on l'a trouvée. Donc les gens se disent, voilà, c'est ici qu'elle veut être, donc il faut construire une chapelle ici, quoi. Mais c'est, enfin, Notre-Dame des Marais, c'est Villefranche, mais c'était aussi, je crois, Montluel. Il y avait une Notre-Dame des Marais avec la même légende. Enfin, voilà, c'est dans le creux d'un arbre, dans le creux d'un rocher. Dans le...
Et il y a la proximité avec la rue des Fayettes.
Voilà. Bah, oui, enfin, à mon avis, ce n'est pas vraiment un hasard. Quoi. La première mention que j'ai trouvée, c'est au milieu du XIIIe siècle. Il y a le mas de Fayetta. Donc il y a déjà la Fayette.
On peut expliquer ce que c'est que les Fayettes.
Bah, les Fayettes, c'est les petites fées. C'est les, voilà, c'est un petit peu un diminutif gentil, quoi, je veux dire, dans la langue. Après, celles qui sont un peu moins gentilles, les fées, c'est les Fayoules. Les Fayoles, plus dans le Haut-Beaujolais, où on les décrivait un peu moins sympathiques. Et surtout, il ne fallait pas les déranger parce qu'on payait cher. Quoi. Voilà. Donc celle-ci, c'est plus les Fayoles ou les Fayoules. Quoi. Mais c'est vrai que Fayette, Fayoules, c'est tout, ça décrit les fées. Quoi.
Ouais, donc un lieu où on allait voir les fées, donc voilà. Des divinités.
Source.
Et bah, puis ensuite...
J'ai trouvé la mention aussi d'une fontaine, de Notre-Dame des Marais. Qui était rue des Fayettes, justement, qui a existé jusque vers 1840. Quoi. Alors, est-ce que c'est la source, déjà... parce qu'il y avait une petite statue de la Vierge au-dessus de la source, à cette époque-là. Donc, est-ce que c'est lié? Mais j'ai pas trouvé d'autres éléments là-dessus, quoi, parce qu'elle a disparu maintenant.
Alors, ce qui est curieux, c'est que cette statue, elle a été gardée... Enfin, la statue qui a été trouvée, etc., elle a été gardée pendant très, très longtemps dans l'église.
Ouais.
Mais du coup, ça n'a pas donné lieu au pèlerinage.
Non, c'est bizarre. Ouais. À Villefranche, le seul pèlerinage qui existait, enfin, il y en avait deux, en fait, c'était dans l'église des Cordeliers. Donc, qui était pas loin de la mairie, là, où il y a eu les fouilles il y a quelques années.
De la préfecture aujourd'hui.
Ouais, voilà, c'était Notre-Dame des Grâces. C'était pour les femmes en couche. Donc, le pèlerinage était assez suivi, jusque vers 1700-1800. Et puis, il y avait un petit pèlerinage aussi à l'église de la chapelle de Roncesvalles. Qui était sur la place Claude Bernard actuelle. Il y avait une petite chapelle dans l'hôpital de Roncesvalles. Et il y avait encore un petit pèlerinage, mais c'était pour les bêtes, pour la santé des bêtes, qui s'est arrêté aussi vers le XVIIe, XVIIIe siècle.
Et donc la statue, elle n'y est plus dans Notre-Dame-des-Marais ?
Non, c'est pas la bonne. Parce qu'on dit qu'elle avait été mise à l'abri à l'abbaye de Joudieu à Arnas. Mais je crois que c'est pas la même. Enfin, on n'a jamais vraiment su. Et on n'a pas de représentation en fait de la, la, enfin je veux dire la statue
Il y en a une, quand même,
d'origine. Bah, il y en a une.
Mais c'est pas la bonne.
qui est taillée dans un tronc d'arbre d'ailleurs, qui est assez étrange, quoi. Parce que quand une fois qu'on enlève la robe, on voit que c'est un espèce de tronc d'arbre, quoi, à peine dégrossi.
Donc, bon, ça pourrait jusqu'à enlever la robe.
Hein. Non, non, bah non.
quand même.
Ouais, pas que c'est jamais.
Alors, plus curieux pour une dernière question, c'est quel est cet attroupement qui est lié à un revenant en 1853 ?
Alors, ça n'a pas un grand rapport avec la religion. Enfin, je c'est pas un lieu de dévotion. Mais ça montre bien un petit peu la naïveté, entre guillemets, du peuple à l'époque, quoi. C'est à travers un article du journal de Villefranche, 1853. Un ancien militaire qui se plaint que depuis quelques jours, il y a des attroupements tous les soirs. C'est la rue Étienne Poulet maintenant.
Rue d'Orléans.
Oui, rue d'Orléans à l'époque. Et qu'il y a un attroupement parce que les gens viennent écouter un revenant qui leur parle contre un mur. Donc il se plaint parce qu'il dit qu'on est en pleine guerre de Crimée, qu'on a autre chose à faire que d'écouter des revenants. Puis en plus, je pense que ça devait être juste sous sa fenêtre. Donc il ne pouvait pas bien dormir correctement. Donc voilà, un peu le militaire grincheux qui se plaint justement que ces gens insensés viennent. Donc ça montre bien un petit peu, voilà. Et puis les choses comme ça, on en voit pas mal, quoi. On a parlé déjà. C'est toutes ces apparitions, donc la Vierge qui pleure, la Vierge qui saigne, des choses comme ça qui ont attiré tout d'un coup, et ça existait il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, il n'y a pas, oui. Ouais. On en parlait il y a.
Bah, on en parlait, oui. Enfin, moi je me rappelle, c'était pendant la guerre de Bosnie, donc c'est pas il n'y a pas si longtemps que ça, la guerre de Yougoslavie à l'époque. Et il y avait eu l'apparition de la Vierge. Alors c'est vrai qu'en pleine guerre, voilà, ça avait une autre dimension. Et je me rappelle que ça avait attiré pendant. Ça avait duré pendant des mois.
Enfin, où
le nom, c'est pas facile, la langue bosniaque.
Ah oui, Medjugorje.
Comment ?
Medjugorje.
Oh, peut-être, ouais, t'es meilleur que moi en bosniaque. Mais je me rappelle, oui, ça avait attiré de toute l'Europe. On en avait parlé pendant des semaines et des semaines. Et je me rappelle de cette colline avec tous les linges blancs, etc. Donc on voit que c'est. Voilà, les choses comme ça existe encore, quoi. Il n'y a faut pas beaucoup, en fait, pour. La rumeur se répand. Et
d'ailleurs, ça continue toujours aujourd'hui. Ces pèlerinages à Medjugorje. Oui. Et Rome est très prudent.
Oui, ben,
ils sont plutôt dans la condamnation, voilà, pour l'instant.
Voilà. Bah, c'est un petit peu comme Lourdes. Quelque part, il faut passer par des commissions et des commissions et des commissions avant de, voilà, que ça soit déclaré un miracle. Parce qu'ils sont souvent fait duper aussi. Mmh. Voilà, quoi.
Merci Philippe.
Oui, je t'en prie.
Donc rendez-vous le samedi 11 janvier à 16h à l'auditorium pour prolonger cette émission avec la conférence qui est proposée par Jean-Pierre Chantin, ici présent d'ailleurs, dont le thème c'est le Beaujolais et le curé d'Ars, amitié, pèlerin et miraculé. Donc on aura encore probablement, oui, quelques légendes qui vont, oui, nous être révélées par Jean-Pierre.
Et retrouvez nos actualités sur notre page Facebook et notre site internet académie-villefranche.fr. Merci beaucoup.
Merci.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.